travaille à l'université de Hanovre et qui va nous parler aujourd'hui de nos gènes.
Hein? Oui. Alors, merci.
Voilà. Bon,
merci. Ça demande beaucoup de courage parce que j'ai jamais parlé publiquement en France. Normal, je peux parler très bien l'anglais et aussi un peu l'italien, mais mon français est très pauvre. Et j'ai demandé à un ami de moi de faire une traduction d'une présentation. Il lui a fait, Jean-Robert, et j'ai commencé à essayer de parler ça à haute voix parce que ce qui m'intéresse, c'est les gènes oraux. Que veut dire si les gens prennent ces termes dans leur bouche et parlent? Je m'intéresse sur les gènes quotidiens, les gènes, le sens des gènes dans la langue quotidienne. Et quand je commence à lire, ça très 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 difficile parce que mon bouche ou mon langue est très est très résistante. Oui. Ne veut vraiment. Alors on essaye parce que il y avait la décision de faire une papier, une présentation plus sûr, plus scientifique, et je me décidais de présenter à vous des voix parce que on avait fait les interviews ouvertes dans la manière de Pierre Bourdieu, de se demander encore que veulent les gens dire, quelle est leur idée. Oui. Ah, je peux parler tout ça. C'est pas possible, pas nécessaire de papier.
Non. C'est excellent, excellent.
Excellent.
Continue.
Oui,
là,
tout va bien.
Comment?
Alors, oui, on a fait les interviews, oui, merci. Alors, notre première demande était qu'est-ce que le terme gène a acquis le droit de citer dans la langue courante? C'est aussi dans les dictionnaires allemands, il n'y a pas les gènes avant les années 60. J'ai dit, il remue les sensibilités, détermine les comportements et devenu un mot choc à l'église, dans les journaux, etc. Quant à nous, nous sommes deux chercheurs. L'une était vous avez pitié avec moi, non? L'historienne du sens commun, l'autre une généticienne de humaine formée en sciences sociales, Sylvia Samersky. Et nous nous sommes demandé ce que le mot signifie, prescrit et provoque, dans la conversation familière ou publique, ou aussi quand on boit du bière le soir et tout ça. Car tout que se passe comme le terme, le gène, initialement en terminus technicus d'une discipline scientifique particulière. Aujourd'hui, c'est pas encore en terminus technicus dans les sciences. C'est toujours, c'est allé, non? Était sorti, nous sommes intéressés, comment, qu'est-ce qui se passe quand ce terme est sorti de sa cage et revendiqué de dire son mot sur tout ce qui sont les hommes et les femmes, qu'ils sont dans la chair et ce qui est bon pour eux. Les gènes en eux est venu à affecter toutes les représentations et perceptions du moi, du toi et du prochain. Et prétendre nous renseigner sur quoi? Sur hérédité, que veut dire le passé? sur le genre des maladies, mais aussi aujourd'hui beaucoup sur l'avenir. Que l'avenir nous tiendrait en réserve, et les gènes, moi aussi, nous nuent sur le destin. Et les gènes est en passe de devenir la grande réponse à toute question sur l'être humain. Peut-être aujourd'hui, c'est plus les gènes, quelques années, mais c'est les cerveaux aujourd'hui. Oui. Parce qu'on a fait ces investigations dans les années 2040-2050. Et ça, c'était après la recherche sur les génomes.
Non, pas 2040.
2004 et 2005. Oui. Les chiffres sont très difficiles.
Oui,
vraiment. Alors, mais mon question était, je suis un historien du corps vécu, et je m'ai demandé quel est le rapport de ces termes avec les sens communs. Ce questionnement doit être mené dans la langue des vécus quotidiens. On ne peut pas abandonner ce débat si nécessaire à des experts, car il s'agit d'une question dont les implications éthiques sont fondamentales. Il est donc décisif de savoir ce qu'on entend au quotidien par les mots « gène ». Aussi, nous nous sommes attachés à dégager ces significations dans la langue quotidienne, autrement dit, à clarifier les conséquences sociales de la compréhension populaire du gène et aussi génétique. Oui? Il s'agit donc d'examiner, et c'est bien, on va comme ça.
Parfait.
Oui. Alors, j'ai à penser que l'anglais est plus difficile à comprendre. Alors, il s'agit donc d'examiner le statut du mot gène dans la conversation courante. Et notre curiosité ne porte pas sur la génétique en tant que discours scientifique. Et c'est beaucoup de recherches sur les discours scientifiques et la popularisation du discours et tout ça, les reports des journalistes et tout ça. Mais nous sommes intéressés de comprendre dans le langage parlé, c'est lui qui parle à, dans une grande mesure, le pouvoir de définir les propres mots. On a demandé ce qui n'est pas assez intéressant à analyser les discours écrits, mais il est nécessaire de se demander et se concentrer sur la conversation du quotidien. Parce que si nous parlons et l'une personne parle, Barbara parle à vous, qu'est-ce qu'il y a? Votre nom?
Olivier.
Quand Barbara parle à Olivier sur les gènes, c'est tout à fait une chose différente. Parce que, pourquoi? Parce que dans les langues parlées, c'est lui qui parle a, dans une grande mesure, le pouvoir de définir ses propres mots. Et on verra que dans les gènes, ça ouvre un abysse de confusion. C'est pourquoi l'objet de notre étude est les gènes, comme il peut être compris dans la conversation courante. Les gènes quotidiens, et alors qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont deux. Il y a une seconde intuition qui a orienté notre recherche. Dans la conversation courante, les gènes possèdent deux particularités qui les distinguent d'autres retombées verbales du laboratoire. Parce que c'est une retombée verbale du laboratoire. Et aujourd'hui, c'est plus, il n'est pas un terme scientifique, parce que les génétiques n'ont parlé des gènes distincts, isolés et tout ça. Premièrement, quelles sont les intuitions? Premièrement, le mot gène renvoie nécessairement à quelque chose qui est finalement corporel.
somatique, concept substantiel de l'être humain. C'est tout ça est un parolaccia, on dit en italien, c'est parler sur, le, sur quelque chose qui est la chair. On parle sur la chair. Deuxièmement, il est affecté, comme on dit, un deixis réflexif. Un deixis, deixis c'est le mot grec, ce que un mot a un référence, un vecteur, oui. Et c'est un deixis réflexif qui veut dire que quand je parle sur les gènes, il est impliqué. Il a un deixis réflexif, auto-réflexif, que moi aussi prends ça pour quelque chose qui existe.
C'est auto-référentiel.
Oui, c'est auto-référentiel, oui. C'est lui qui assigne des gènes à autrui, s'en assigne à soi-même, et porteur de gènes se déclare génome à deux jambes. Et je pense que c'est une des manières comment ça vient, ça prend la semblance d'une réalité. Oui. Nous avons donc voulu mener une enquête sur ce qui se passe quand le mot gène sort du laboratoire et tombe sur la langue courante. Et ceci, nous avons investigué dans deux situations différentes. Dans la première, la biologiste Cilia prête attention à la manière selon laquelle un spécialiste, au cours d'une séance conseil génétique, prétend instruire la cliente assise à face de lui sur ses gènes. Il y a un expert, là est Olivier. Non, Olivier, c'est beaucoup les gens, les femmes. Alors, Madame K. Et Madame K est un peu incertitude sur la futur et veulent savoir si elle a raison d'être angoissée sur la futur. Et elle demande à la personne, au génétiste, et le génétiste fait une instruction. Et s'il y a à analyser que passe quand un expert explique, et ça veut dire il parle avec sa bouche, c'est oral, explique à les oreilles de Madame K sur son futur, en faisant une instruction sur ses gènes. Ses gènes. Oui. Il prétend instruire la cliente assise en face de lui sur ses gènes. Yeah. Au cours de telles séances, un concept scientifique désoué, celui des gènes en tant qu'objet distinct pouvant être isolé et vendu aux femmes et aux hommes qui se soumettent à ces conseils, les informations d'experts. Au cours de l'instruction accompagnant la séance génétique, c'est pas dans votre papier. Au cours de l'instruction accompagnant la séance génétique, les clients se voient d'abord transformés. Qu'est-ce qui se passe dans une instruction comme ça? Le client est transformé en une double statistique d'elle-même. Oui. Ensuite, premièrement, il adresse comme un double Madame K. Veut savoir sur le futur. Il commence, c'est toujours rituel, il commence à expliquer les gènes dans un langage qui n'est pas ça des laboratoires, mais dit c'est comme les gènes sont comme die Perlen auf einer Schnur, comme les gènes sont sur les chromosomes, et explique ça. Et explique à lui et adresse la femme, mais tout ce qu'il dit est que lui transforme épistémiquement Madame K en une double statistique. Et il a écrit le futur dans un statistique, et dans les statistiques, il n'est pas futur. Il n'est pas futur. Mais transforme un arithmétique en futur personnel. Alors, ensuite, les généticiens établissent un profil de risque à partir de cette double statistique. Puis, la cliente est invitée à intérioriser ce profil comme s'il agissait à qui sait,
comme s'il s'agissait
d'un énoncé significatif sur elle-même et son avenir. Finalement, elle est sommée de prendre une décision. C'est toujours sur, finalement, prendre une décision sur le type d'examen et d'intervention jugée nécessaire. Observatrice et auditrice de ces conversations entre les géniciens et leurs clientes, il s'agissait pour nous d'analyser la métamorphose épistémique par laquelle la cliente devient preneuse de décisions et experte sous contrôle en risk management. Tout ça, les gènes sont un cheval de Troie pour les risques. C'est, les gènes sont incarnés la chair en risque. Elle est ainsi instruite à se comprendre elle-même comme matière individuelle soumise à contrôle, comme Deleuze a dit, ou comme un complexe de facteurs de risque. C'est dans la science, instruction d'un expert. On en peut parler sur ça si vous voulez. Mais ici, je veux me concentrer sur l'autre situation. Et l'autre situation se réfère à l'acclimatation du mot gène dans un village. On est venu dans un village au sud d'Allemagne, un village, et on parlait avec les gens. On a nommé ce village Heudorf. Et lors des longs entretiens avec les villageois, nous avons tâché de mettre en évidence les représentations, les expériences, les craintes, et aussi toutes les histoires sur la famille et sur l'avenir que le mot gène évoque et suscite en eux. Les conversations visaient à faire ressortir un éventail aussi ample que possible d'associations personnelles imprégnées d'expériences vécues et enracinées dans les réalités que le gène oral tant bien que mal d'exprimer. Tu me peux comprendre?
Oui, parfaitement.
Merci. Merci. C'est vraiment... comment s'appelle si on fait une chose la première fois? C'est
une évaluation.
Une première.
Mes pauvres bouts.
Un peu de thé?
Ah oui, merci.
Voilà, un peu. Non, mais ça, tout va bien. C'est très bien que tu nous aies donné les textes. Ça aide vraiment bien.
On comprend bien. Alors, ce que nous voulions était débusquer les images du génétique qui émergeaient des réponses des villageois à une série de questions simples destinées à mettre en évidence pourquoi et comment les gènes concernent les gens et peuvent refléter leur expérience et perception personnelle. De quoi se nourrit leur savoir sur eux, dans quelle mesure celle ou celui qui parle et est-elle sûre de ce qu'elle dit? Quelles sont les attitudes adoptées lors des réponses à nos questions? Quelles sont les réponses à notre question initiale? Quand vous entendez le mot gène, qu'est-ce que vous vient à l'esprit? Que vous pensez? Et j'ai dit quelque chose qui n'est pas dans votre papier, un peu pour clarifier. Je m'attacherai à vous présenter les registres de réponses. On a fait une analyse de tous les registres. Cesaron vont une longue interview et on a fait une analyse du registre, comment on registre des réponses, qui est à un certain moment historique le registre des réponses sur ces questions. Quand vous entendez le mot gêne et dans la manière de Bourdieu se référer et demander encore et tout ça. Et je vais vous présenter les registres de réponses à des questions verbatim. Ce sont beaucoup de réponses traduites en français, c'est-à-dire dans les termes même des gens interrogés. Et ce sont deux observations préalables sans pause. Premièrement, ces réponses sont autoréférentielles, c'est-à-dire que ce qu'elles racontent se rapporte toujours à celle ou celui qui parle, à la manière dont elles se représentent cette obscurité sous la peau, qui est l'intérieur invisible de son corps. L'historienne de la chair vécue ne peut que prêter une oreille attentive à ces expressions de la perception de soi-même, qui, à l'âge postmoderne, le sont aussi d'une subjectivité désincarnée. C'est totalement absurde que les gens parlent. C'est vrai, c'est très concret, mais c'est aussi totalement absurde. L'élucidation de cette métamorphose induite de soi-même est très difficile. Si elle ne constitue pas un objet de recherche, c'est pourquoi? Parce que nous avons commencé avec ces recherches et rien n'a fait une chose comme ça. C'est beaucoup de recherches sur les gènes et aussi sur risk management et tout ça. Mais je pense que ces questions n'ont pas fait parce que la plupart des scientifiques chercheurs sont eux-mêmes prisonniers de la croyance en l'existence positive des gènes. Et chez les autres et chez eux-mêmes. Et il y avait une précondition et comment, si comme nous avons écouté, comment veut écouter dans les théâtres, par exemple, on se fait en distance et on veut pas capir les sens, mais on veut comprendre les drames que se passe si les gens commencent à parler dans cette manière. C'est la première. Deuxièmement, en vous présentant verbatim, j'ai parlé beaucoup avec Jean-Robert. Jean a dit, oui, c'est nécessaire pour présenter vraiment verbatim, les voix, pour vous donner une impression. Oui, je vous présente verbatim les réponses à notre enquête. J'espère vous faire toucher du doigt à quel point de bavardage, à quel point le bavardage sur les gènes sape la confiance que l'on pouvait avoir en ses propres sens. Lorsqu'il devient un mot-clé du langage quotidien, les gènes effacent en effet la frontière entre sphères hétérogènes et les mélanges. Incitant les gens à reformuler en abstraction technogène, véritables déchets verbaux de laboratoire, ce que les gens savent dire d'eux-mêmes. C'est le mélange, oui. Savent dire d'eux-mêmes en se fondant sur leur expérience et leur perception sensorielle. Les gènes au quotidien deviennent ainsi la marque éclatante et paralysante d'une image absurde de l'humain intériorisé, incarné comme un fait d'expérience. Sa force de destruction se manifeste comme nulle part ailleurs dans les conversations de tous les jours. Alors, je commence avec les premières réponses, et les premières réponses furent déconcertantes. La première question est, que vient dans ton imagination quand tu écoutes ces mots. Oui. Et ses premières réponses furent déconcertantes. Elles pointaient dans deux directions totalement contradictoires, deux manières opposées de converger le sens, sont opposées dans le sens commun. On ne peut penser tout à fait à deux directions qui sont tout à fait hétérogènes. D'un côté, les gènes du père, du papa, de la famille, l'hérédité, et l'autre, manipulation. Ce sont toutes ces deux directions dans un souffle, celui de manipulation génétique. Alors, écoutons d'abord sur ce thème les réponses de la coiffeuse et de la boulangerie de Roydorf. Peut-être vous, mais alors,
moi, je suis la coiffeuse.
Oui.
Alors, Marie-Sophie, la coiffeuse.
Oui.
Je pense que certaines caractéristiques des gens, c'est tout simplement de naissance. C'est là depuis le début. C'est tout simplement comme ça, ça vient des gènes. Ça me fait penser à ce dicton de chez nous qui dit « Si un jour je deviens comme ma mère ou comme mon père, alors bon, débarrassez-vous de moi » ou quelque chose comme ça. Toutes ces choses sont, comme on dit, prédéterminées génétiquement. Mm-hmm. C'est ça qu'elle dit.
Mm-hmm. Et l'autre ?
Alors, la boulangère. Mm-hmm. Voilà ce que dit la boulangère quand on lui pose la question « Qu'est-ce que c'est les gènes ?» Alors,
c'est toujours la première question. Hein. Mm-hmm.
Parce que selon ce qu'on en entend dire, et d'après ce que j'en sais et ce que j'en pense, certaines choses appelées des gènes peuvent être transformées. Et quand on intervient dans ces choses...
Premièrement, était les familiers, l'autre est la manipulation alors. Oui.
Voilà. Mm-hmm. Et c'est la boulangère.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Donc alors, et quand on intervient dans ces choses, c'est de la manipulation. Comment ça se fait? Non, là-dessus, je ne sais rien. Est-ce que c'est par le sang? J'en ai pas la moindre idée, je ne sais pas. Non, je n'ai aucune idée comment ils s'y prennent. Tout ce que je peux en dire est que c'est vraiment intéressant. Oui, je trouve vraiment intéressant de lire des articles là-dessus et surtout d'entendre des explications à la télévision sur ce qu'on arrive à faire avec les gènes. Comment on fait ça? Encore une fois, je ne sais pas, moi. Ceux qui savent, eh bien, ce sont ceux qui font de la recherche génétique. Et la recherche génétique, si vous posez aux gens la même question qu'à moi, si vous leur demandez « qu'est-ce que la recherche génétique ?», eh bien, ils vous répondront « la recherche génétique, c'est pour modifier les gènes, c'est de la manipulation. » Modification, manipulation, voilà les mots. La recherche, c'est pour modifier quelque chose. Quant à savoir exactement ce qui est modifié et où, ou combien de temps durent ces modifications, avec quoi, avec quels moyens on les réalise, à mon avis, personne ne pourra en dire grand-chose. Là-dessus, on n'est tout simplement pas assez informé.
Oui. Les associations d'idées que font surgir les gènes ressemblent aux figures à deux faces du dieu Janus. Hein? Une des faces est tournée vers un domaine de signification centré sur les concepts d'héritage, d'un patrimoine donné, et l'autre sur celui des manipulations, de la transformation volontaire par la science de se donner. Autrement dit, une des faces du Janus génétique, nous parle de parenté, d'origine, d'histoire de famille, et l'autre, des bébés éprouvettes, des mice transgénétiques, des clones et des restructurations de l'humain. La première face nous remet à la perception du moi et du toi et de l'existence vécue. L'autre face nous parle de manipulation, de laboratoire et de scénarios aussi prometteurs que angoissants. Le domaine sémantique de l'héritage s'ancre dans le passé familial, dans ce qu'on est devenu personnellement. Au contraire, l'idée de manipulation a pour enjeu la future de l'humain en soi. Le mot gène permet aussi de confondre dans un seul souffle ce qui est porteur de sens est ce qui relève de la fiction, d'une part, des expériences personnelles concrètes, et de l'autre, des on-dit, à connotation scientifique. Ce mot réalise la prouesse d'amalgamer des morceaux de savoir empirique avec des reflets abstraits des représentations scientifiques de la réalité. Que est-ce donc ce mot capable de danser sur deux scènes conceptionnelles opposées et de passer de l'une à l'autre sans même un claquement de langue? Son surgissement dans la langue courante permet de condenser en une coquille de noix verbales les perceptions familières et l'inconcevable. Alors, commentons d'abord les associations relatives à l'hérédité. Que veut dire la coiffeuse quand elle reprend l'expression des prédéterminés génétiques? Comme le feront d'autres habitants de Heudorf, elle indique par là que, pour elle, les gènes se réfèrent à quelque chose de donné, c'est donné. En ça, que l'on porte en son corps, depuis le début, qui vient des gènes du père, il faut se résigner. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. C'est une certitude aussi de l'expérience. La coiffeuse encore. Alors, oui.
Marie-Sophie. C'est Marie-Sophie?
Oui.
Voici comment je me représente les choses. Si maintenant je suis assise avec vous ici dans cette posture-ci, cela me vient de mon père et de ma mère. Et parce que je tiens quelque chose de chacun d'eux, moi, je suis comme un pot dans lequel on aurait vidé tout cela. On remue les gènes et me voilà. Voilà Marie-Sophie qui est assise comme cela. Un peu de ceci, un peu de ça, coucou, me voilà. Et pour quelqu'un qui aurait connu les parents de mes parents et peut-être leurs grands-parents, le mélange que je suis deviendrait une soupe de... Une soupe de morceaux d'arbres généalogiques. De chacun des parents, de chaque aïeul, de chaque aïeul d'aïeul, j'ai hérité quelque chose. Justement, voyez la couleur de mes cheveux, du vrai blond, du naturel, et ça ne vient ni de ma mère ni de mon père. Il paraît que ça vient d'un aïeul du côté paternel.
Oui, et tout ça, c'est toujours concret. Ouais. Ce sont toujours... Oui. Ici s'exprime une compréhension en une compréhension de l'hérédité saturée d'expérience. Marie-Sophie se tortille sur sa chaise exactement comme le faisait son père. Elle a reçu cela de lui au berceau. Quand le mot gène surgit dans une conversation, c'est presque toujours au sens proverbial de transmission de parents à enfants d'un être ainsi physique et spirituel. La transmission des caractéristiques physiques visibles, des traits de caractère, d'humeur, d'habitude, dans lesquels on reconnaît en chacun la part d'héritage de ses parents, ses grands-parents et à
ses aïeux.
Aïeul.
Ça s'écrit aïeul, mais
aïeul. C'est aïeul. Aïeul. Toutefois, alors, c'est la première. Alors, c'est bien ça, on peut faire ça? Oui, parce que c'est très difficile si on fait ces trafics entre les rivières, faire une traduction, parler dans un langage différent, et toujours on fait un trafic entre deux cosmos sémantiques, et on ne suit pas sûr qu'on dit, peut-être, parce que c'est très difficile. Alors, toutefois, pour nombre des habitants de Heudorf, il y a aussi autre chose. Ils associent au gène quelque chose de biologique qui résulte de la fusion des chromosomes dans l'ovule. Ce quelque chose est une entité causale qui réside dans les cellules et est responsable du développement. Les gènes deviennent alors une instance invisible à laquelle est subordonné tous les développements, une chose prédéterminée, dès le moment de la conception qui déterminera à son tour ce qui s'en suivra. Selon les degrés d'exposition au concept scientifique de celui ou de celle qui parle, cette instance apparaîtra comme étant plus ou moins génétique. Écoutons maintenant l'enseignante d'école ménagère et l'instituteur.
Oui? Là maintenant, je suis l'enseignante d'école ménagère.
L'enseignante de l'école ménagère, oui.
Il y a des gènes pour toutes les dispositions héréditaires fondamentales. C'est évident que j'ai besoin des gènes, comme j'ai besoin, disons, des cellules qui forment mes organes, mes membres, mes cheveux.
Mm-hmm.
Maintenant, la coiffeuse?
Non,
non.
C'est trop. J'y ai pensé, il faut.
Merci. Mm-hmm. Alors,
L'instituteur, oui.
Alors, l'instituteur, ce qui constitue les cellules à l'intérieur, ce qui transmet l'information lors de la division des cellules, ce sont les gènes. Et on nomme l'ensemble le génome. Là se trouvent emmagasinées toutes les informations héréditaires, et les informations héréditaires se multiplient et deviennent, lors de la division cellulaire après la fécondation, une cellule, 2, 4, 8, 16, 32, etc. On a d'abord la morula, puis la blastula, puis la gastrula, puis la phase du fœtus. Et ces informations génétiques donnent, voilà que sortent les petits bras, les petites menottes, les petits doigts. Maintenant, cette partie est établie dans le cerveau. Tout cela comme suivant un plan de construction, le génome et le plan de construction de l'être humain.
Mmh. Alors, prêtons attention à ce que disent ces deux derniers interlocuteurs. D'abord, à leur non-dit. Aucun, en effet, n'est dit mot de la différence fondamentale entre les gènes que le langage courant associe à un dos, un héritage reçu au berceau, et ceux qui sont interprétés comme porteurs d'une disposition génétique, d'un plan de construction dans le génome. Certains témoignages oscillent d'une signification à l'autre. Est-ce couper les cheveux en quatre que d'insister sur cette distinction et vouloir la maintenir? Nous ne pensons pas. Selon la seconde acception du mot gène, celle qui l'associe à une conception biogénétique définie, il n'est plus question, comme dans la première, des gènes à papa qui transmettraient des caractéristiques personnelles. Elle évoque plutôt une sorte de mythe fondateur, le nouvel Adam. L'être humain a son origine exactement comme la souris ou le bœuf. Dans le croisement des paires de chromosomes, dans un programme génétique qui deviendra son génotype ou génome. Celui-ci résulte d'une loterie de chromosomes soumise au principe du hasard. C'est le principe du hasard. Les spécialistes comparent en effet ces nouvelles constitutions de l'homme par fusion de chromosomes à une loto. Il parle de l'auto des chromosomes. La conception n'est que le moment d'un nouveau battage des cartes qui ne permet pas de voir quels numéros sortiront. Le mélange des chromosomes dans les gamètes équivaut à la constitution d'un programme génétique, un processus faillible, entièrement soumis aux hasards. Cette nouvelle constitution rompt en fait le lien héréditaire unissant parents et enfants. En effet, le génome qui surgit de la conception n'est pas essentiellement issu du père et de la mère, mais d'un programme ensuite aux hasards. Ce programme, un ensemble d'informations constituant le génotype, est réputé déterminer le développement de l'enfant. Alors, le pharmacien local définit les gènes comme constituant une sorte de cahier des charges pour les caractères héréditaires qui détermineront tout ce qui s'en suivra c'est tout à fait le différent entre référence à les passés ou que se deviendra. Alors, tu peux lire.
Alors, le pharmacien. Je lis le pharmacien.
Oui.
Pharmacienne.
Non, c'est,
non c'est un homme.
Mais je joue. Pharmacienne. Oui, mais là, je joue. Je joue. C'est pas moi. C'est
très bien.
J'interprète.
Très bien.
C'est bien, ça. C'est intéressant.
Oui.
Très bien. Ah, non.
Parce que c'est un peu pas normal de faire ouvrir un dialogue. Mais
alors, alors
c'est comme les théâtres.
Je joue le pharmacien.
Oui.
En quoi les dispositions héréditaires reposent-elles sur les gènes? Eh bien, tout cela est une question d'information, d'information contenue dans les gènes.
Interrogé sur la façon dont il se représente, il explique ainsi.
C'est comme un écheveau. Voilà comment c'est un gène. C'est une chose très allongée. Ça porte des millions de caractéristiques qui sont plus ou moins fortement imprimées. À vrai dire, là, c'est scientifique. Tout est question de disposition héréditaire et celle-ci repose sur les gènes. Des dispositions héréditaires, c'est-à-dire qui sont génétiquement héritables.
Et puis, il parle des acides aminés, des acides nucléiques. Comment on parle? On appelle ces machines qui permettent de visser ensemble les acides aminés. Ah oui, il dit. Il paraît que cela s'appelle
les liaisons peptidiques.
Pour lui, l'individu humain est une mixture de 5 millions de gènes, des caractéristiques qui se répartissent plus ou moins au hasard lors de la fécondation. Ici, un point fort, c'est un caractère dominant. Ah, yeah, il dit, je l'ai ça, il dit, il y a un caractère fort, un autre, tout ça. À une question sur les modalités de l'action des gènes, il répond.
Ça, c'est une cellule qui le fait. Qui fait quoi au juste? Ça, c'est la question. Ce que je veux dire, c'est que l'action des gènes, ça se situe au niveau de la cellule et c'est à ce niveau que ça se transmet des informations quand cela s'hérite. Il y a une division qui multiplie les informations et permet de les propager. Comment cette information est-elle transmise exactement? Au fond, je n'en sais strictement rien.
Les fils d'une ethnologue avec laquelle nous nous sommes entretenus est venu au monde avec un bec de lièvre. Elle avait pourtant consciencieusement fait faire tous les contrôles prénatales. Elle était outrée que celle-là ait pu avoir lieu malgré toutes ses précautions. Comment a-t-elle pu, avec ce garçon, laisser une faute s'infiltrer dans la substance héréditaire de la famille?
Oui, c'est ça. C'est déjà une malformation, oui. Et maintenant, nous avons ça dans la famille. Il peut le transmettre plus loin. Maintenant, il y aura toujours ça dans sa substance héréditaire. C'est ce que les médecins m'ont dit. Et ils m'ont demandé si c'était déjà arrivé dans ma famille. Je leur ai répondu, ah non, mais maintenant, oui, c'est arrivé. Maintenant, c'est dedans.
C'est dedans.
On m'a expliqué que c'est du génotypique qui ne devient pas nécessairement phénotypique. Mais ça pourrait toujours le devenir. Pas nécessairement qu'ils m'ont expliqué, mais tout de même, c'est là dans la substance héréditaire de mon fils. Si c'est localisé sur une des paires de chromosomes, ou si cela les a infectés tous les deux, je n'en sais rien. Peut-être qu'une seule paire est touchée, et dans ce cas, mon fils a un jour une partenaire qui, elle aussi, a une paire de chromosomes touchée par le gène défectueux. Alors cela peut ressortir, et j'aurai un petit-fils avec un bec de lièvre.
Les réponses des habitants de Heudorf à nos questions sur l'hérédité nous retenons ici. Lorsqu'ils se détournent de la réalité familière de l'ici et maintenant, de l'être né ainsi et de l'être devenu ainsi pour entrer dans la sphère d'un programme invisible, subliminal, aux aguets derrière tout ce qui vit lors de la formation duquel pourrait se produire une faute. Un abîme s'ouvre en eux. Le père et la mère, les géniteurs vivants, sont remplacés par les concepts d'un mélange ou croisement constituant un programme génétique au sujet de duquel seuls les experts savent quoi que ce soit de précis. Je veux aller. Entreprenions de montrer comment un déterminisme antérieur programmé dans les gènes donne une illusoire substance charnelle au concept de risque il nous faut discuter une couche plus ancienne des représentations des gènes, des gens. À Heudorf, un spectre entre les conversations, c'est lui de gènes défectueux. Et aussi, c'est aussi dans les instructions des... les conseillers génétistes, lui aussi parle sur les gènes défectueux. Souvent, les gens imaginent ce défaut très concrètement, comme si c'était une chose ou plutôt un dommage. Et comme un dommage suppose logiquement une chose endommagée, abîmée, fichue, le concept de gène défectueux confère au gène une sorte de concrétitude déplacée. Le jardinière.
Alors, la jardinière d'enfant. Parce que un défaut, un gène, c'est quelque chose qui ne tourne pas rond. Je ne sais pas si c'est expliqué ainsi dans le dictionnaire, mais pour moi, quand quelque chose est fichu, c'est que ça a besoin d'être réparé ou quelque chose comme ça.
Et la boulangère?
La boulangère. Des infirmités, rien que des infirmités. Que vous représentez-vous quand on vous parle d'un défaut, un gène? Donc des infirmités. Je ne parlerai pas de défaut génétique quand, par exemple, il naît un noireau dans une famille dont tous les membres durant 5 générations confirmées étaient blonds. Non, pour moi, ce n'est pas la preuve qu'il y a là un défaut, un gène. Il est vrai qu'entre membres de la famille, il arrive qu'on le suggère pour se taquiner mutuellement. Regardez-moi ça, nous avons maintenant un mouton noir parmi les brebis blanches. On dit ça pour rire, mais moi, vous savez, je pense que même si être noireau parmi les blonds, ça n'est pas un mauvais défaut, il y a quand même un défaut là-dessous. Ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, il y a des défauts génétiques sains et des défauts génétiques malades. Je me le représente tout à fait comme ça. De 1 à 5, ce sont de bons gènes, et de 5 à 10, ce sont des mauvais. Dans les numéros 2, 3, 4, donc je répartis les gènes en... Ah bon, 1, 2, 3, ce sont des gènes, dit l'enquêteuse. Oui, oui, ça pourrait être aussi des couleurs, mais restons chez les gènes. Alors, qu'un, 2, 3, 4, 5 restent ensemble, eh bien, les changements qu'il peut y avoir sont de bons changements, ou pour le moins des changements qui n'entraînent pas de dommages, mais quand 6 et 10 s'en mêlent, ou quand par exemple le 3 et le 6 tombent ensemble, alors il y a du grabuge, et voilà un mauvais défaut génétique.
Et la coiffeuse?
Alors, la coiffeuse. Défaut génétique. J'ai entendu dire que chaque humain a dans le corps un nombre déterminé de gènes. Tout cela est sujet à dénombrement. À vrai dire, j'en ai seulement entendu parler à l'occasion, et je ne comprends pas très bien comment tout ça marche. Je m'imagine que chaque gène a peut-être une forme spéciale ou une tâche déterminée dans le corps. Et le défaut génétique, c'est quand un gène n'a pas la forme qu'il faut ou fait autre chose que ce qu'il doit faire. Un peu comme dans cette histoire que je raconte à ma petite fille, avec le bon et le mauvais petit nain. Un gène défectueux, c'est un mauvais petit nain. Pour les gènes, ça doit être comme pour les atomes, non? Je veux dire, les atomes qu'on voit dans ces images de molécules, dans les annonces de médicaments, il faut peut-être qu'ils se tiennent sagement en rang. Quand les gènes se tiennent bien les uns à côté des autres, tout va bien, la chaîne est complète. Et ce qui se passe dans le cas d'un défaut génétique, c'est qu'ils devraient tous se tenir les uns derrière les autres, mais ils ne le font pas. C'est comme ça que je le vois.
Comme on l'a dit, les mots gènes et génétiques sont des nouveaux venus dans les vocabulaires. Jusqu'aux années 1970, le mot gène n'apparaissait pas dans les dictionnaires de la langue allemande, ni mot isolé, le gène, ni comme composition. Depuis, il est propagé à grande vitesse. Dans 15 de nos 21 conversations, la locution gène défectueux connote de manière imagée quelque chose d'abîme, de mal foutu à l'intérieur du corps. C'est l'introduction dans les langues modernes, dans le concept latin spécialisé, mutatio, qui a donné une sorte de concrétude déplacée à l'avènement du gène. Redéfini comme une modification aléatoire des caractéristiques d'un être vivant susceptible de devenir héréditaire, le mot mutation permet maintenant aux gens de parler du défaut génétique comme de quelque chose qu'on pourrait toucher du doigt comparable à un défaut de fabrication. des concepts de conversation courante et des images comme celles des chaînes, des lacunes, des suites numériques à l'envers se rapportent dans une large mesure à ce qu'on rencontre et expérimente dans la vie. Si, par exemple, une théière est fichue, alors, ou bien elle est fêlée, ou bien il lui manque un morceau et on ne peut plus l'employer comme théière. Même lorsque le défaut n'est pas visible, par exemple dans le cas d'un frigo défectueux, celle-ci ne fonctionne pas. Qui se passe-t-il lorsque les gens parlent d'un tel défaut? Prêtons attention à la science des manuels scolaires. En génétique moléculaire, rien n'est normal, ni transformé, ni défectueux. Il n'y a que des séquences de base. Ces séquences ne peuvent pas, à l'instar d'un organe, par exemple, avoir un aspect ou un fonctionnement normal ou anormal. La suite des bases dans une séquence de ADN ne permet pas de prédire quel sera son effet. On ne peut pas non plus établir une norme statistique au niveau de ADN, car ADN est très variable, aussi bien à l'intérieur d'un individu qu'entre individus. C'est seulement lorsqu'une variation sur le plan de ADN est corrélée avec un phénotype déterminé singulièrement remarquable que, pour les généticiens, elle devient une mutation. Ce concept se rapporte donc toujours à un ensemble statistique fondamental, à des calculs théoriques de probabilité. Des mots comme faute ou défaut nourrissent cependant la croyance qu'un gène, de même qu'une théière ou un frigo ou une chaîne peut être défectueux. Par le truchement du défaut, les gènes prennent l'aspect d'une chose concrète, et c'est cette substance qui les rend susceptibles d'avoir des défauts. Il s'ensuit logiquement que ce gène défectueux va faire ou manigancer quelque chose. Il nous a quelquefois semblé que les gènes se représentent des gènes fautifs comme un diable sortant d'une porte à réseau. Oui. Oui. Avant de tenter d'élucider les conséquences sociales et symboliques de la croyance en une défectuosité antérieure dont on ne peut prendre connaissance par les sens, nous devons discuter une autre facette du gène au quotidien. Les gènes défectueux dont il fut question jusqu'ici semblaient agir comme des agents distincts et isolables, des objets qui font les choses d'une certaine manière et déterminent par là comme elle devrait justement ne pas être. Gène de croissance tordue, avons dit la jardinière d'enfants, en parlant d'une gène qui ferait grandir bouter. L'expression de défaut génétique en venait à jouer le rôle traditionnellement en partie au destin, un destin inné face auquel on ne peut que dire « c'est comme ça, il n'a rien à faire ». Mais cette croyance a d'autres effets symboliques. Ces gènes défectueux que l'on suppose à l'œuvre derrière telle ou telle chose manifestement tordue, selon la logique de la causalité linéaire, ont propriétaire de conduire à un nouveau domaine du possible, sans précédent jusqu'ici. Ils implantent dans notre corps un « pas encore », et pourtant déjà là. Le champ des associations s'élargit et se déplace. Le mot désignant une tare héréditaire s'est fait signe d'un invisible fardeau à venir. Cet éclatement d'une frontière sémantique en une prédestination fatale mais incertaines, devient cause de souffrance indicible lorsqu'on associe les gènes à des maladies possibles, comme dans le cas des prétendus gènes de cancer. Il symbolise alors une fatalité planifiée, un malheur latent qui pourrait survenir à tout moment. La vendeuse de boulangerie, qui s'était exprimée du fond du cœur à propos des gènes comme dos et comme défaut, dos, elle a dit dos, mais aussi elle a dit les défauts, yeah, résume intuitivement son idée en un éclatant symbole de la puissance d'action d'un plan antérieur défectué.
Alors, la boulangère. Je me représente quelquefois les gènes comme des capsules. Si vous cherchez un exemple, eh bien le voilà. Le gène, c'est comme une boîte ou une capsule. Si elle est ouverte, alors c'est là, 100% de chance que ça arrive. La question est, ouvert ou fermé? Est-ce qu'il est déjà ouvert, le gène? Oui, c'est bien ça, une capsule qui déverse des influences. Par exemple, vous buvez beaucoup d'alcool, un gène de prédisposition à l'alcoolisme, c'est ouvert. Vous faites beaucoup de sport, un autre gène, ou Dieu sait quoi encore, c'est ouvert.
Dans la mythologie occidentale, la boîte de Pandore était le symbole de tous les maux imaginables. La boulangère recourt intuitivement à une image semblable comme métaphore des maux futurs occultes, mais pourtant latentes. Pas encore manifestes, mais pourtant déjà là. Seul l'avenir révélera ce que la capsule tenait cache dès le début. Par contraste avec la Pandore de la mythologie grecque qui a volontairement ouvert une boîte objectif extérieure à elle-même, c'est au tréfonds de soi-même qu'on recèle la boîte de Pandore génétique. Personne n'a le pouvoir de la laisser fermer ou d'en soulever le couvercle. La menace est une épée de Damoclès déjà là sans être encore manifeste. C'est un défaut potentiel à l'intérieur qui pourrait surgir à tout instant dans sa participation volontaire. Ces gènes potentiellement pathogènes mèneraient donc une vie propre, capable de nous menacer. Non seulement ils agissent et fabriquent quelque chose, mais tant ce qu'ils pourraient faire que quand ils se feront est imprévisible. Si les gènes provoquent quelque chose à l'intérieur du corps, ils ont pour ainsi dire déterminé l'être humain tel qu'il est, alors ils permettent non seulement d'expliquer rétrospectivement ce qu'il est devenu, mais aussi prospectivement ce qui pourrait encore lui advenir. En d'autres mots, les gènes n'expliqueront pas seulement ce que est quelqu'un, mais il prédirait aussi ce que lui arrivera à l'avenir ou pourrait lui arriver. Comme disposition défectueuse, il pourrait en tout moment, absolument à l'improviste et au hasard, déclencher les effets ravageurs. C'est pourquoi même la personne née en bonne santé ne peut jamais être sûre que telle faute insaisissable par les sens, ne pourrait se manifester. Le nom d'une tare héréditaire devient le chiffre d'un fardeau statistique prédéterminé qui porte son ombre sur l'avenir et qui peut menacer sans arrêt. Au cours de toute dernière année, ce fatal gène de malheur futur s'est incrusté dans les mentalités annonciateur de tous les maux possibles du cancer aux possibles malformations de l'enfant de venir. Paralysée par la probabilité de ces gènes, la personne ne peut plus faire confiance à sa propre chair. Les gènes deviennent ainsi le cheval de Troie par lequel le risque, un concept statistique dérivé de la théorie des probabilités, peut pénétrer au plus profond de notre chair. La jardinière d'enfants se référant aux terribles tumeurs qui ont affecté les membres de la famille explique. Oui, alors, faisons là et c'est la fin.
Ce que l'être humain attrape comme maladie, ça dépend des cellules. Le cancer et toutes ces choses graves, c'est prédéterminé. Comme on le dit bien, tu peux être prédisposé par hérédité au cancer, oui. Si par exemple des cellules ont une trop grande propension à n'importe quoi, par exemple à se diviser par erreur, à produire des cellules agressives, eh bien elles peuvent déclencher le cancer. Il y a là-dessus beaucoup d'opinions. Certains disent que tous peuvent l'attraper, d'autres, selon ce que j'ai entendu dire, défendent la thèse qu'il faut une prédisposition, prédisposition de famille, héritée. Moi je crois qu'il y a un peu des deux, bien que j'incline à penser que la prédisposition est importante. Mettons que les cellules se mettent à produire ce qu'il ne faudrait pas. Leurs écheveaux s'en mêlent, quelque chose prolifère. Il doit exister une prédisposition à ce désordre, quelque chose d'ancré en toi, non? Je le crois vraiment parce que, bon, comment expliquer autrement que quelqu'un qui a fumé jusqu'à sa mort à un âge avancé n'a pas attrapé le cancer du poumon et qu'un autre qui n'a jamais fumé ou à peine fumé, il en est tout à coup atteint. Alors tu te dis, eh ben, il est bien possible que je l'attrape aussi. Peut-être que c'est déjà fixé, que je suis destinée à avoir un cancer ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas vraiment.
La jeune femme est profondément angoissée. Elle se représente des sinistres possibilités d'avenir fixées d'avance dans les gènes ou cellules. Elle énumère les dangers latents qui pourraient menacer son corps. Un malentendu largement répandu s'instaure de cette façon. Les probabilités statistiques, données générales qui ne veulent rien dire de l'individuel, prennent corps individuellement. Ces probabilités sont prises concrètement pour les dispositions corporelles, voire en programme. Cette effrayante incarnation de la science des probabilités n'est possible que parce que l'hypothèse d'un programme défectueux, d'une mutation qui, par définition, en génétique, ne peut que se rapporter à des cohortes statistiques, prend dans la conversation courante l'apparence de quelque chose de concret et de corporel. Avec deux conséquences. D'abord, tu ne peux plus jamais te fier à ce que te disent tes propres sens. La présence corporelle devient incertaine et potentiellement irréelle. Deuxièmement, le futur devient un espace fatal de risques qui requiert d'être mis dès aujourd'hui sous surveillance personnellement informée. Ces risques doivent de plus être calculés en prenant comme référence les cas hypothétiques les plus graves. L'idée acceptée que les gènes peuvent receler une maladie s'articule avec celle que l'attaque de la maladie n'est que la manifestation d'un défaut sous-jacent qui l'a précédé. Et leur confluence ne peut que justifier des contrôles de plus en plus draconiens. Alors, ce que veut dire l'état de sécurité est incarné. Ouais. Comme Castel dit, il y a toujours les soupçons. Il y a toujours, c'est en atmosphère, au milieu des soupçons, toujours. Ce n'est plus la maladie en elle-même, mais les gènes sous-jacents qui apparaissent comme les mal à combattre, la cause de ce que s'y manifesteront plus tard. En conclusion, je veux faire tout court. En analysant ce matériel, on est très, très intéressé de comprendre, et nous avons vu tous les verbes, de comprendre que font les gènes, que font. Et tout ça, comment sont déterminant quelque chose, ou peut-être déterminant tout ça. Et je veux finir avec un peu plus, oui. Sous quelle roche de flux verbal est cachée l'anguille? C'est tous les habitants de Heudorf avec lesquels nous avons conversé. Le mot gène semble être affecté d'une directionnalité. Une directionnalité. C'est comme si ce mot était un vecteur. Les gènes sont toujours des gènes pour, orientés en direction de quelque chose. C'est pourquoi, afin d'examiner la nature de cette directionnalité, nous avons prêté attention au verbe, particulièrement au verbe modo, comme pouvoir, devoir, vouloir, savoir. Comment et envers quoi la chose nommée agit-elle? La force de causation supposée des gènes est essentiellement ambiguë et, comme Janos, à double visage. Il est frappant de constater combien, dans les discours, les adverbes sont à double entente et souvent de sens opposé. Manifestement, il y a d'une histoire de cause, d'effet, déterminée et indéterminée, prédéterminée, ancrée, prescrite, voire même préprogrammée, mais en même temps incertaine, pas sûre et conditionnelle. Les locuteurs sont douloureusement sans sa propre chair, qu'il est lui-même simultanément prédéterminé et livré au hasard. Les gènes pouvant nous dire provisoirement ouvre sous la peau les vannes d'une causalité contradictoire, ici des deux époques historiques. Une causalité unilinéaire, vieux style, les gènes déterminent, basta, et d'autre part une cause de mouvement conforme au mode contemporain, imprévisible et abandonnée au hasard, d'où procèdent les transformations inconcevables. Dans la langue courante, les référentes du mot a deux modalités. Les gènes sont des entités qui ont la particularité d'agir modo realis, c'est-à-dire en mode réel, selon les schémas traditionnels de la cause et des effets, et simultanément modo irrealis ou modo conditionalis sur le mode irréel ou conditionnel, selon lesquels leur effet semble soumis au hasard. Tout un chacun, lorsqu'il affirme croire en ses propres gènes, peut se convaincre de l'action de la causalité classique dans son propre corps et son être ainsi. Il est précisément devenu comme il est par leur action causale. Quant à la causalité conditionnelle des gènes, à ce qu'ils pourraient faire en mettant en action, elle se déclenchera peut-être dans le futur chaotique et le plus souvent fatal. Les gènes ouvrent par là un espace fictif en face duquel l'expérience propre est impuissante. Aujourd'hui, il ne s'agit plus des corpuscules d'hérédité du moine bénédictin Gregor Mendel, mais des dispositions dont les conséquences potentielles agissent puissamment sur l'histoire du présent. En effet, ces gènes implantent la probabilité dans le présent de notre propre chair. Le sol se dérobe ainsi sur le pied du locuteur. Comment notre propre chair peut-elle être simultanément l'effet d'une disposition déterminante, voire d'un programme, et fonctionner en même temps à la manière de la roulette? Tel numéro de mauvais augure sera touché ou non par la boule. Ce qui est déjà présent en tant que disposition ou potentialité s'actualisera ou ne s'actualisera. Cet effacement de la frontière entre modus realis et modus conditionalis, entre les réels sensibles et ce qui pourrait advenir, ouvre la brèche par laquelle les risques, tel un cheval de Troie, investit l'autoception, la perception de soi-même et sape les sens communs. L'individu tend alors à se réincarner dans sa propre chair comme s'il était devenu un risque, oubliant que, par définition, le risque statistique ne peut avoir de sens que pour les grands ensembles statistiques et non à aucun pour être l'individuel. Le degré auquel, dans les conversations des habitants de Heudorf, les gènes étaient implicitement devenus les déterminants d'état d'âme, nous a surprise et inquiété. Peux faire le reste? Oui? Je peux lire? Oui? Oui? Parce qu'on veut aussi discuter.
Oui, ça va aller.
On pourrait bien sûr rétorquer que ces gens n'ont pas compris l'effet scientifique gène. Ah, si tu voulais lire, Martine, le reste?
Oh, tu veux te reposer un petit peu avant la discussion?
Non, ça dépend, je ne peux je n'ai pas un sens comment mon français terrible.
Non, mais peut-être comme ça. Moi, je lis la fin, comme ça, tu te reposes pour reprendre les forces pour la discussion. Et puis, tu bois ton thé. D'accord. Donc, on pourrait bien sûr rétorquer que ces gens n'ont pas compris le fait scientifique gêne et que l'ambiguïté de leurs déclarations ne traduit que l'ignorance ou le demi-savoir des non-spécialistes, inévitablement dans l'erreur, dès qu'ils cherchent à s'exprimer sur ce qui n'est pas du domaine de leurs compétences limitées. Ils ignorent et pour cause que les progrès en biologie moléculaire ont entre-temps réfuté la thèse selon laquelle il existerait des entités fondamentales, définissables et isolables, comme des sortes de corpuscules d'hérédité, agents causatifs de tout développement. Dans la mesure où un nombre croissant de biologistes et de généticiens arrivent à la conclusion que le gène, en tant qu'axiome de la génétique et représentation guide de la connaissance, ne correspond à rien qui soit identifiable, il devient obsolète en tant que concept scientifique. Du point de vue de la génétique la plus avancée, il est indéniable que le gène de l'alcoolisme, ainsi que ceux de la déficience mentale, de l'obésité, de l'adultère ou du gâtisme, ne furent guère plus que des spectres dans un défilé de fiction sans fondement scientifique. Même l'idée que le gène en tant qu'unité fonctionnelle et segment discret d'un chromosome peut être vu comme une unité d'hérédité et comme telle cause suffisante des maladies et élément du plan de construction de l'organisme et porteur d'informations n'est plus guère défendable non plus. Ce sont avant tout les résultats du projet du génome humain qui ont clarifié la complexité du développement et de l'hérédité. Même les déterministes génétiques les plus endurcis ont dû se rendre à l'évidence, la représentation des gènes comme cause est définitivement ébranlée. C'est ce qu'explique Evelyn Fox Keller dans un livre très au fait de l'essor, l'apogée et l'amorce du déclin de la pensée génétique en biologie. Comme elle le remarque bien à propos, la plupart des tentatives de définition du gène se sont écroulées, presque toujours au moment où la croyance en les capacités des gènes d'être à l'origine de tout avait atteint son zénith culturel et scientifique. Ce n'est pas dans les laboratoires de biologie moléculaire que nous devrions initier la recherche sur la signification des gènes pour l'histoire du présent, mais dans le champ du gène au quotidien. C'est en effet au quotidien que le gène corrompt le savoir sensible et concret de soi-même et du monde.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup,
Barbara.
Merci beaucoup.
Bon, alors bon.
Je crois que là,
c'est très bien.
Il y a beaucoup
de...
Ça, tu veux qu'on...
Ça dépend. J'ai fait plus abstrait, une réflexion sur la langue et tout ça. Mais parce que j'étais un peu inquiétude, un peu d'inquiétude, si je vous ai présenté avec tous ces voix des gens de Heudorf, mais ça me semble nécessaire pour introduire, oui, et c'est ça seulement si vous voulez se dire ou aussi distribuer. Oui, après, c'est bien ça.
Alors, on peut passer tout de suite aux remarques, aux questions. À Barbara, en français.
Et peut-être je peux vous demander si avec tout mon français terrible, qu'est intéressant sur ça. Pourquoi est intéressant ce que moi viens à Paris pour présenter en boulangère, en coiffeuse et en instructeur de l'école dans un village allemand sud à vous intéresser sur l'histoire de subjectivité.
Oui, allez-y.
Oui.
La science tue devenir en fait de l'homme, enfin il y a un côté, on détermine tout à l'avance, on prévoit le futur, on n'a pas
pas compris.
Écoutez, il faudrait que vous parliez
lentement
et distinctement,
oui,
pour que Barbara vous comprenne, d'accord, et fort, et fort.
Par rapport à la subjectivation, on est clairement en tête, c'est par le de la subjectivation, on prend à l'avance les perspectives que l'individu peut avoir par un savoir scientifique. On a établi une vérité qui est dans l'absolu, qui va remonter l'imagination de ce que l'on.
Mais qu'est-ce que c'est qui est intéressant? que les gens parlent des faits, en partie, parlent des faits scientifiques qui sont déjà allés, alors que conséquences symboliques dans le autodaxis, ça est très fort à un moment où dans la science génétique, on ne parle rien sur les gènes distincts, et on peut dire que, comme Kitcha a dit déjà en 1995, Kitcha a dit a gene is anything a competent biologist calls a gene. Ça dépend de that depends of the scientific field within genetics in which from which you speak, so that the word as a scientific term has many different specific and precise references, and that the determinant, the determinant gene that was Roussabat criticized already in the 1990s, that was a scientific fact in the sense of Ludwig Fleck, a scientific fact, yes, around the time of the investigation of the Human Genome Project. Aujourd'hui, c'est passé. Et c'est très intéressant que dans les conversations publiques, les génétistes disent, mais c'est le public, un trop grand croyance à les gènes déterminés. Nous savons déjà que les gènes ne sont pas déterminantes, mais s'il y a dans les États-Unis, c'est un grand marché, par exemple pour les gènes, pour un test, si tu as les gènes, si une femme qui est enceinte, le bébé futur a des gènes pour Alzheimer. Si c'est enfant, si 70 ou 80, que ce sont les tests aujourd'hui qui disent que cet enfant a des gènes pour les Alzheimer ou la susceptibilité. Alors, c'est que la science propre s'est changée, c'est plus aujourd'hui l'épigénisme et pas les gènes déterminants, mais c'est que la boulanger de Becquerel, que lui parle, et un fallout, you say in English, a fallout, c'est un déchet que les gens, ça c'est, comment ça s'appelle?
Elle est tombée.
C'est en tombée, oui, c'est en tombée de tout ça, et on a écouté, et qui est très intéressant, et que tous les gens disent, mais on a demandé, mais où sont les gènes? Et c'est dans le cerveau, c'est une petite goutte dans ma sangle, rien ne peut expliquer précisément. Et c'est vrai, parce que aussi les sciences ne peuvent expliquer vraiment, parce que comme terminus technicus, c'est très compliqué. Et qu'est-ce qu'il y a très important, que dans la langue courante quotidienne, on ne peut parler, ce sont les chiffres, c'est les statistiques, c'est les chimies ou microbiologie. On ne peut transformer ça en une langue qui est sensible et qu'on peut adresser le prochain. Qui m'intéresse beaucoup est comme dans la langue contemporaine, c'est un filtre en termes que veut dire soi-même, mais aussi sur les bébés, mais aussi sur les prochaines, infiltré dans les relations et les références très intimes aussi, et explode la dépendance de son propre délibération personnelle et aussi intime et précieux, le personnel précieux, et fait ça dépendant des experts, des professionnels qui, si en fait, je poussais, il y a une décision, parler sur le Hoydorf ou parler sur l'analyse de ce qu'un expert dit à Madame K, qui a plein d'angoisse que le cancer de sa famille se revient aussi en elle. Il ne peut dire rien. Il ne peut dire rien. Il peut offrir les statistiques. Mais ça, il adresse Madame K et dire toi. Mais il parle ce que sont les informations qu'il lui dit ne sont sur elle. Il adresse Madame K parle à lui directement, mais l'information a rien, ne touche rien à son futur ou à ça personnellement. Et c'est un particulièrement ambigu de dialogue que est toujours dans les informations scientifiques. Mais ici, c'est très, très intéressant parce que ça touche à le fondement de soi-même, hein, spécialement sur l'enfant qui vient de tout ça. Je ne sais si j'ai...
Je crois que Lima voulait te poser une question.
Oui, je voulais demander à Barbara qu'est-ce qu'elle pense justement de l'impact, de l'effet de ces représentations. La conclusion est que avec les représentations du gène, il y a une corruption du savoir sensible et concret de soi-même et du monde. Et bien sûr, il y a d'autres produits qui sont sortis des laboratoires qui ont le même effet que le gène, beaucoup d'autres, évidemment. Mais est-ce que, peux-tu dire plus de choses sur l'impact de cette corruption? Par exemple, est-ce que ça modifie le sens de la responsabilité? Est-ce que ça modifie la morale? On pourrait penser que, au fond, ça serait un déterminisme, la représentation d'un déterminisme qui pourrait supprimer toute responsabilité. Bon, c'est pas moi, c'est mes gènes, ils m'ont emporté. Là, j'ai tué Martine avec mon couteau, mais c'est parce que j'avais un gène de criminel, c'est pas de ma faute. Ou alors, est-ce que comment ça affecte la gène-ci, quoi, la capacité d'agir des uns et des autres, voilà.
Oui, c'est merci. Ce sont différents niveaux où je peux répondre. Un niveau est de la personne. Je pense qu'un terme est très, très apte pour parler sur l'effet symbolique. Ça s'appelle schizoesthesis, schizo, mais pas dans la psychologie, schizophrénie. Ma esthésis dans ton propre perception sensorielle, on ne peut vivre comme un génome. On ne peut vivre. C'est impossible. Mais tout à fait, il y a dans certaines situations que ça c'est ancré dans les angoisses, spécialement des femmes, de la future. Et parce que c'est important, parce qu'il semble de parler sur la future terrible avec les maladies. Et il y a ce schizoesthesis parce que dans le normal, on ne peut aller la route, on ne peut être aussi en amour. Je pense si on réfère à l'autre, à la prochaine, comme un génome, c'est totalement fou. Mais c'est dans certaines situations, ça peut articuler. Et je pense que c'est partiellement en relation à la future et sur dans les demandes aujourd'hui de manage to manage, to manage, to optimize deux choses. Optimize, que tu optimises ton propre chair et tu être responsable à la future, spécialement où on ne peut être responsable parce que c'est quelque chose qui se passe, on ne peut être responsable. Et dans ce cadre, je pense que les jeunes du souffle au hasard aussi incorporer les demandes néolibérales que toute personne est l'acteur, le sujet de son propre destin avec la calculation et que tu es dépendable que du pain. Alors, veut dire une femme qui a un enfant qui est un peu différent comme les autres. Le voisin, aujourd'hui en Allemagne, dit « C'était pas nécessaire, non? Tu n'as pas fait les tests. C'est pas nécessaire. » Alors, mais les tests, il est aujourd'hui encore, c'est totalement impossible de prévenir le futur et la chair, le caractère de l'enfant. C'est seulement une possibilité que c'est être un risque facteur, on peut faire un test, mais de la multitude innombrable que peut être, c'est impossible de contrôler. Mais aujourd'hui, il y a le devoir de contrôler le futur. Et les jeunes c'est très paradoxal parce que les jeunes disent c'est entre les deux causalités, c'est déterminé, mais à la même temps c'est ton devoir de calculer et de contrôler et tout ça. Et en ce sens, les jeunes dont le corps, la chair à risque, et risque comme Robert Castel et l'autre Eval, François Eval et aussi Foucault ont dit, le risque est un mot clef pour les demandes des gens aujourd'hui de se manager soi-même.
Oui. Il y a une chose par exemple des femmes. Aujourd'hui, il y a ces tests pour savoir si tu vas avoir cancer du sein. Et je connais des gens qui se sont élevés les seins parce qu'ils avaient peur.
Oui.
Je connais le cas d'une fille de 23 ans.
Oui. 23 ans.
23 ans.
Oui.
Qui vivait dans l'angoisse permanente. Il avait le cancer. Et alors, il s'est fait les tests parce qu'il avait sa grand-mère et il y avait un oncle. Et il s'est fait
enlever les seins.
Oui. Enlever les seins. Et c'était parce que, si tu as la possibilité, la recommandation, je pensais, par exemple, devrait être que tu te fais un test chaque 6 mois.
Oui, oui.
Mais pas t'enlever les seins. C'est drastique, c'est l'automutilation pour une croyance qui est fondamentale dans ça.
Et dans les États-Unis, j'ai eu l'occasion de parler avec les d'être présent dans une conférence des généticiens américains et aussi des chercheurs. Et là, il est très, très fort. C'est très, très fort parce que c'est aussi ça ouvre un marché. Parce que le futur, il n'y a pas de limites. Il n'y a pas de frontières. Parce que toujours, ça peut toujours être quelque chose. Et aussi pour les femmes, c'est beaucoup de. Parce que c'est créer les angoisses.
Et c'est les vendre, la solution, que c'est l'implant, comme ça se dit en français.
Oui,
les
implants
de la mère. Mais c'est aussi possible parce qu'il y avait un mélangement de ce mot avec les maladies. Alors on dit les gènes pour le cancer des seins. où les gènes courent. Et il y avait tous ces reports dans les journaux. En Allemagne, il y avait tout ça, les gènes pour adultes et les gènes pour alphabétisation ou les gènes pour ça et ça. Et c'est premièrement ce qu'il y a une corrélation statistique, ça c'est bien. Mais nous, les gens pensent dans une conséquence causale traditionnelle. On dit ça fait ça. Mais tout ça est statistique, mais les personnes ne savent que les gènes nous transportent dans un monde de probabilité. Mais si les personnes s'échangent dans une personnification de probabilité, ils sont, c'est une personnalité qui est importante aujourd'hui pour les gagnements, pour les gouvernements des grands numéros. Il y a vraiment que les changements des personnes, une personne incarnée des gènes, on assume la personnalité, d'un risque profile, un personnage probabilité, qui est vraiment la figure qui est nécessaire entre les manières, types de gouverner, de bureaucratie. Alors, je pense que les gènes sont très, très importants aujourd'hui pour parce que la probabilité, on avait beaucoup des paradigmes scientifiques sur les corps. Mais la probabilité était totalement nouveau parce que comme personne, moi, Barbara, je ne peux être probable. Je ne peux. Et les statistiques calculent quelque chose dans les statistiques et ce sont les corrélations. Et mon futur est une chose totalement différente comme ces calculations. Parce que les statistiques n'ont dit rien sur une dimension du futur, de temporalité. C'est probabilité, mais pas temporalité. Mais c'est individualisé pour ton propre destin. Et ça est vraiment... Oui, c'est très... Oui.
Malcolm, vous voulez
poser une question? Alors, j'ai une question. Donc, j'ai beaucoup apprécié l'image du dieu de Janus avec deux gens, les deux visages, le donné et la manipulation du donné. Et donc l'idée qu'il y ait aussi cette angoisse du futur, qu'on ait envie de contrôler le futur ou de faire le futur. Et je prends l'exemple en fait dans le tutorat pour rester aux États-Unis du cas de certaines personnes, donc particulièrement les Nord-Américains, qui vont faire une recherche de leur génome pour savoir dans quelle région géographique d'Afrique ils sont originaires. Donc est-ce que dans ce cas-là ça peut toujours le voir comme une inquiétude du futur, mais qui passe autrement. Et dans ce cas-là, j'ai l'impression qu'on va plutôt vouloir rechercher le donné. On dit est-ce que le donné c'est vraiment ça, ou est-ce que
cherche le passé.
Oui, mais c'est une question très importante, une question très importante aussi sur éthique ou sur hexis, mon devoir personnel, parce que si on vient en cette direction, je vais faire un très grand distance entre les conceptions en conseil statistique, parce que avec les statistiques, on peut incorporer seulement les merkmales.
Les marques.
À dire âge, couleur, mâle ou femelle, ou tout ça. Mais comment personne, ton passé caractéristique, parce que on se transfère dans le monde des chiffres. Parce qu'il faut il faut énumérer les chiffres. Si aussi, ce sont les aspects qualitatifs. Mais ce sont les chiffres. Mais comme un personnage qui est lié à autre et un fils de quelqu'un, grand-fils de quelqu'un, c'est tout ça sont les beaucoup des histoires à raconter. Mais quand on dit aujourd'hui, et c'est possible à investiguer ton passé dans la génétique, je pense que c'est un abîme. C'est un mélange parce que ce n'est pas le passé et ce n'est pas dans un domaine humain. Oui. Et c'est très intéressant. Que veut dire que les gens sont assez déracinés? Que c'est ça comme un service de savoir ton profil et en comparaison à ces choses-là. Mais
ouais, enfin, on dit que c'est super intéressant aussi pour la façon dont les personnes vont se construire à partir de ce fait qu'ils scientifiques
se sont.
Et par exemple, ils ont pris leur échantillon sur la côte ouest africaine.
Oui.
Donc Barack Obama, s'il fait le test, il n'est pas d'Afrique. Enfin, il y a tout un tas d'histoires comme ça.
Oui.
Mais c'est vraiment le côté de comment on va utiliser ces données pour se construire.
Oui. Ouais. C'est une reconstruction de ton propre subjectivité, mais c'est annule tout ça. Parce que c'est comme tu ne sais des histoires, des tout ça.
Ça prend la place d'une généalogie familiale.
Oui, parce que c'est pas une généalogie. Sarah Franklin a dit pour ce que nous avons en face dans une certaine transmission alchimique, et elle a dit. Eraser and replacement, éraser et remplacer, parce que c'est Madame K avec son angoisse et veut savoir sur sa futur. Et tout ça, c'est très sensible, on peut comprendre. Mais il y a un érasement de ces personnes et une transférence, et elle est reconstruite comme un cas, un fall, un case. Et par exemple, les instructeurs génétiques l'adressent comme en case. Ils parlent à elle, mais ne parlent d'elle, mais parlent d'elle comme en case, en cas, dans une certaine classification qui forme une classe statistique. Et dit que les risques ou probabilités de ces classes sont aussi ces risques personnels. Mais c'est seulement un effet de ces classifications. On change les classifications, alors tout à fait. C'est comme Ketley a dit que dans le 19e siècle, c'est impossible d'avoir les numéros sur les taux de mortalité dans les statistiques et dire. Tu es mort demain parce que c'est dans les numéros. Hein.
Les nombres.
Oui, parce que c'est. Ketley a su qu'il y a un grand contrat entre cet épistème et épistème personnel et historique de ce monde. Et qui me fait beaucoup de peur. Et j'étais dans une conférence en Italie, il y a tous ces généticiens, et avec ces computers, et avec ces chiffres, et tout ça, ce sont toujours les diagrammes, et je pense, c'est peut-être un diagramme sur quelque chose qui est situé dans une femme, mais c'est impossible, parce qu'il y a une transférence dans un domaine. Mais la docilité des gens de culper, c'est fou, hein? C'est vraiment une chose fou, je pense, aujourd'hui. Le plus je pense sur ça, je pense, est très, très nécessaire d'analyser comme, comme l'effet symbolique d'un dérangement du sens où on a la terre sur les pieds. Et pour dire, mais qui est? Qui est? Non, que, parce que s'il y a le je me ferme. Mais parce que dans les instructions des génétistes, alors c'est nécessaire qu'il dise tout ce qui peut arriver à tous, le bec de lèvres et tout ça, à une femme enceinte. Et elle veut dire, mais que ce serait dans ma future? Et il doit dire, aller à une femme prophétie. Qui ça, la prophétie?
Une voyante.
En voyante. C'est la seule personne, si tu veux. Autrement, les génétistes, aujourd'hui, ce sont comme faire une prophétie, mais parce que c'est en numéro, on ne comprend pas. Parce que c'est fou pour la personne individuelle. Oui.
Encore une question, peut-être?
Oui,
allez-y.
Je voudrais savoir ce que vous pensez de la psychanalyse, dans le sens où on peut le rapprocher, quand on réfléchit sur le sujet des éléments qui nous influencent et qui, dans le thème du libre arbitre, on peut voir aussi les facteurs dans notre vie, dans notre passé, que la psychanalyse analyse et dit aujourd'hui tu es comme ça à cause de ça et de ça. Ce sont aussi, comme dans le sujet de la génétique, des probabilités. Enfin, c'est un ensemble de calculs très compliqués avec des paramètres, des millions de paramètres qui font qu'on est comme ça ou comme si. Mais aujourd'hui, on vit dans une époque où les gens vont chez le psychologue, chez les psychanalystes et interprètent le présent en fonction de leur passé.
De leur passé.
Et donc, moi, je vois un peu le même problème du à partir de quel moment on peut se dire d'accord, il y a eu tel événement dans mon passé où j'ai tel gène dans mon corps et donc je peux le contrôler. Il n'y a pas de à partir de quel niveau. Mais si vous avez réfléchi un peu sur le sujet et que vous avez une réponse.
Mais dans les psychoanalyses, dans ces cadres, il y a un drame. Il y a quelque chose qui se passe, qui s'est passé. Il y a quelque chose qui est en souffrance dans le passé et qui se fait réapparaître et fait son conséquence. Mais avec les gènes, tu parles sur ton être. Ton être, dans toutes les cellules, c'est incroyable. C'est vraiment l'humain dans sa substance corporelle. Et du commencement, depuis la naissance.
Avant.
Et on ne peut faire rien sur ça. C'est vraiment. Parce que les gènes, si on voit l'histoire des effets symboliques des gènes, dans le 20th century, les gènes ont fait servitude à les politiques différentes. Et c'est seulement dans les 200, after 2000, que la probabilité est une société de risque et de sécurité. Les gènes donnent encore pour une société de sécurité qui veut dire que toujours quelque terroriste peut être, il faut toujours vérifier s'il y a quelque chose déjà. Il y a un milieu de soupçons, toujours soupçons. Oui. Alors, si comme quelqu'un qui a travaillé sur les corps, sur le cœur, corps comme un concept, pas naturel, mais historique, les gènes donnent corps à une certaine nouveau en société postmoderne, et ça, son importance, je pense. Que c'est pas, c'est ça.
Hein. Bon. Eh bien, merci beaucoup, Barbara. Et bravo pour la performance.
Merci beaucoup. C'était une initiation pour moi.
Alors ici, il y a d'autres, il y a les textes de Barbara et Sylvia Samerski que vous